Selon des informations fraîchement reçues, des réunions entre Israéliens, Américains, Kurdes et Turcs se déroulaient dans le bâtiment frappé à Erbil par l'Iran. L'expert des questions iraniennes et régionales, Mohammad Mahdi Shariat Madari, a affirmé que dans le bâtiment visé dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Erbil, dans le Kurdistan irakien, se déroulaient des réunions entre Israéliens, Américains, Kurdes et Turcs dans le but de planifier des attaques contre l'Iran. Le bâtiment d'Erbil a été pris pour cible parce qu'il était utilisé par le Mossad pour espionner l'Iran, a-t-il ajouté lors d'un entretien avec la télévision libanaise d'information Al-Mayadin. Monsieur Shariat Madari a indiqué que Téhéran avait informé auparavant le gouvernement irakien que le Kurdistan irakien était devenu le refuge des sionistes, mais on lui a accordé aucun intérêt. Téhéran avait aussi averti qu'il riposterait et qu'il ne resterait pas les bras croisés face à ce qui constitue un danger pour sa sécurité. Selon le corps des gardiens de la révolution qui a revendiqué l'attaque, le bâtiment abritait un centre stratégique des complots sionistes. L'expert iranien a réitéré que la frappe du Ségéri était une riposte à l'attentat perpétré contre une base iranienne dans la province de Kermanshah au nord-ouest du pays, province frontalière avec le Kurdistan irakien. Quant à la mort de deux officiers du Ségéri qui ont succombé lors d'un raid israélien à proximité de Damas le 8 mars dernier, elle saura venger le moment et le lieu opportun, défini par l'Iran et contre des endroits israéliens directement, selon M. Shariat Madari. En marge du sommet sino-américain de Rome, le 15 mars 2022, les États-Unis ont exercé de très fortes pressions sur le Saint-Siège. Ils entendent transformer le conflit en Ukraine en guerre de religion. La Russie ne livre pas de guerre au peuple ukrainien, mais un petit groupe de personnes au sein du pouvoir états-unien qui a transformé l'Ukraine à son insu. Les Straussiens cherchent donc à faire ressurgir le clivage catholique-orthodoxe. Ce mouvement s'est déjà formé il y a un demi-siècle, a déjà commis une quantité incroyable de crimes en Amérique latine et en Moyen-Orient à l'insu des États-Unis. Les Straussiens ont imaginé avec Bernard Lévy, sous la présidence de George H. Bush, le père, de mobiliser les musulmans contre la Russie. Cette stratégie délibérée fut présentée ultérieurement par l'assistant de Lévis, Samuel Huntington, comme une fatalité, le clash des civilisations. Cependant, cette stratégie qui fut mise en œuvre en Bosnie-Herzégovine, puis en Tchétchénie, est inopérante en Ukraine, où les deux camps sont chrétiens. Les Straussiens veulent donc faire ressurgir le clivage catholique-orthodoxe. À cette fin, ils entendent réactiver la théologie développée autour des visions de Fatima. La consécration par le pape François de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie le 25 mars 2022 est un événement très fort d'un point de vue symbolique. Selon le site www.famillechrétienne.fr consacré à l'actualité de l'Église, Fatima, au moins pour ce qui concerne l'Église catholique, a un lien particulier avec la Russie et aussi avec chaque conflit qui survient dans le monde, assurait M.G.R. Paolo Pesi, archevêque du diocèse de Moscou. Il y a 3 ans, les Straussiens ont fait exploser l'Église orthodoxe ukrainienne en créant une Église orthodoxe autocéphale ukrainienne, non pas reconnue par le patriarche de Moscou, mais par celui de Constantinople. Le 24 février à l'aube, les forces russes sont entrées massivement en Ukraine. Selon le président Vladimir Poutine, qui s'exprimait alors à la télévision, cette opération spéciale était le début de la réponse de son pays à ceux qui aspirent à la domination du monde et qui font avancer les infrastructures de l'OTAN aux portes de son pays. Durant cette longue intervention, il a résumé la manière dont l'OTAN a détruit la Yougoslavie sans autorisation autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, allant jusqu'à bombarder Belgrade en 1999. Puis il a parcouru les destructions des États-Unis au Moyen-Orient, en Irak, en Libye et en Syrie. Ce n'est qu'après ce long exposé qu'il a annoncé avoir envoyé ses troupes en Ukraine avec la double mission de détruire les forces armées liées à l'OTAN et d'en finir avec les groupes néo-nazis armés par l'OTAN. Immédiatement, tous les États membres de l'Alliance Atlantique dénonçaient une occupation de l'Ukraine comparable à celle de la Tchécoslovaquie lors du printemps de Prague en 1968. Le discours du président Poutine n'était pas dirigé contre l'Ukraine, ni même contre les États-Unis, mais explicitement contre ceux qui aspirent à la domination du monde, c'est-à-dire contre les Straussiens au sein du pouvoir états-unien. C'était une véritable déclaration de guerre à leur égard. Le plus grand groupe énergétique allemand, E.ON, a annoncé la fin des achats de gaz naturel auprès des entreprises russes. Le PDG de E.ON, Leonhard Birnbaum, a déclaré que la société achetait du gaz sur le marché de gros de lieu et n'avait pas de contrat d'approvisionnement à long terme, bien qu'elle ait acheté de petits volumes de matières premières à Gazprom en 2022. Depuis le 15 octobre 2021, Gazprom a cessé de vendre du gaz par le biais du commerce électronique et ne fournit que dans le cadre de contrats à long terme. Aujourd'hui, E.ON n'a pas la possibilité d'acheter du gaz à Gazprom sur place. Quant à Novatek, avec son projet Yamal LNG, l'Allemagne ne dispose pas de terminaux GNL et l'approvisionnement en matières premières via les ports des Pays-Bas passe par des achats auprès de sociétés intermédiaires. La tendance anti-russe a longtemps été promue dans le secteur de l'énergie en Allemagne, mais au cours des deux dernières semaines, tout cela a fait surface. La même chose se passe dans la politique européenne. Berlin va réduire la part des combustibles fossiles russes dans son mix énergétique, mais on ne sait pas encore où l'Allemagne va se procurer du gaz alternatif. Il existe des options pour l'achat de pétrole, de produits pétroliers et de charbon, mais il n'y a pas de détails sur le carburant bleu. Le gazoduc russe représente 55% des importations allemandes, mais il ne faut pas oublier le diesel russe, dont la part sur le marché allemand est de 14%. Après le début des événements en Ukraine, les prix du gaz à la bourse néerlandaise TTF ont atteint 3 800 $ par millier de mètres cubes, mais ont ensuite chuté. Les prix restent inacceptables pour les entreprises en Allemagne et les déclarations de Habeck continueront à les maintenir à un niveau élevé même pendant la saison estivale. L'Allemagne et l'UE sont confrontés à une répétition de l'automne 2021, mais seulement dans le pire des cas et avec des conséquences plus importantes. L'industrie énergétique et les ménages allemands souffrent des prix actuels. Berlin prévoit d'adopter un amendement de 99,7 milliards d'euros au budget en vertu duquel Habeck et Lindner promettent de compenser les fluctuations de prix. Il y a la proposition de Lindner de compenser les prix de l'essence à hauteur de 40% de leur coût final, déclare Bellof. Cependant, c'est un chemin qui ne mène nulle part. Premièrement, il n'est pas certain que ce modèle fonctionnera et deuxièmement, le problème ne disparaîtra pas. Le sabotage des relations énergétiques avec la Fédération de Russie et le blocage de Nord Stream 2 en 2021 ont entraîné l'effondrement des marchés de l'énergie de l'UE et de l'Allemagne. Les exportations chinoises vers la Russie explosent. Les exportations de la Chine ont connu un tassement en janvier-février 2022, progressant de 16,3% seulement sur un an, mais elles ont bondi de 41,5% vers la Russie. Ce chiffre traduit les fortes relations entre la Chine et la Russie. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que l'amitié entre les deux peuples est solide, comme un roc, et les perspectives de coopération future sont immense. Souhaitant conserver son partenariat avec Moscou, Pékin s'est abstenu de condamner l'intervention russe en Ukraine, se refusant même à parler d'invasion. La Chine est prête à participer le moment venu à une médiation internationale pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Cependant, la Chine n'est toutefois pas prête à tout pour aider son voisin, car elle tient à préserver ses intérêts économiques et de ne pas s'attirer les foudres de l'Occident. Le ministre Wang Yi a assuré que la relation avec la Russie est solide comme un roc, précisant que les perspectives de coopération future sont immense. Entre les deux pays, cependant, la position de la Chine vis-à-vis de la Russie est souvent pointée du doigt par certains pays occidentaux, reste inchangée pour des raisons historiques, économiques et commerciales. D'ailleurs, ces liens se sont traduits par une hausse des exportations chinoises vers la Russie depuis le début de l'année 2022. Car si la Chine a connu un tassement de ses exportations en janvier-février 2022, elle grimpe fortement vers la Russie selon des chiffres publiés par les douanes chinoises. Sur les deux premiers mois de 2022, les ventes de la Chine vers son voisin russe ont bondi de 41,5% sur un an, sans que le détail des produits concernés ait été précisé. La Chine est le premier partenaire commercial de Moscou depuis 12 ans, selon le ministère chinois du commerce. La relation bilatérale est pourtant asymétrique, car la Russie n'est que le 18e partenaire commercial de Pékin. D'après Ji Yu, spécialiste de la Chine à la Chatham House, un institut basé à Londres qui suit les relations internationales. Cependant, la Russie est l'un des rares pays à dégager un excédent commercial avec la Chine. En 2021, la Chine a réalisé chez son voisin pour 79,3 milliards de dollars d'achats, soit 3% des importations chinoises selon la banque ANZ. Ces ventes en Russie représentent 67,6 milliards de dollars, soit 2% seulement du total des exportations chinoises. Les hydrocarbures et des matières premières comme le bois et les métaux représentent l'essentiel des achats chinois. La Russie fournit à la Chine 16% de son pétrole, avec en moyenne 1,59 million de barils livrés chaque jour l'an dernier selon ANZ. Le gaz naturel russe représente 5% de la consommation chinoise, mais la Chine augmente progressivement ses volumes. En janvier 2022, Pékin et Moscou ont scellé un nouvel accord pour la fourniture de 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel à la Chine en provenance de l'extrême-orient russe. Les deux pays ont aussi plusieurs projets de gazoduc, dont le premier est entré en service en 2019. De plus, la Russie est un gros investisseur sur le marché obligatoire chinois, selon ANZ, avec l'équivalent en yuan de quelques 140 milliards de dollars d'avoir. À l'heure actuelle, 17% des échanges entre la Chine et la Russie sont réglés en yuan, a affirmé l'analyste Julien Evan Pritchard du cabinet Capital Economics à l'agence de presse Reuters. Cependant, avec les sanctions occidentales contre Moscou, cela pourrait rapidement changer afin de maintenir la circulation des marchandises, a estimé ce dernier. La Chine est également le premier partenaire commercial de l'Ukraine, mais ce pays ne présente que 0,3% des échanges de Pékin. L'Ukraine alimente la Chine en matières premières, notamment du minerai de fer. Situé sur le trajet des nouvelles routes de la soie, l'ambitieux projet d'infrastructure lancé par Pékin sous l'impulsion de Xi Jinping, l'Ukraine participe à cette initiative depuis 2017. Mais la proposition de la Chine face à la Russie pourrait pousser Kiev à être moins encline à faire des affaires avec la Chine et à soutenir des projets, avertit le cabinet Sino Insider. Le projet des routes de la soie qui traverse la Russie pourrait être fortement pénalisé par les sanctions occidentales contre Moscou. L'Ukraine exporte principalement vers la Chine de l'orge, de l'huile, de tournesol et surtout du maïs. L'an dernier, 29% des importations chinoises de cette céréale provenaient d'Ukraine selon les douane chinoise. Fortement dépendante de l'Ukraine pour l'approvisionnement alimentaire, la Chine cherche aujourd'hui à diversifier ses sources d'approvisionnement, selon l'agence Bloomberg. D'ailleurs, le jour de l'invasion de l'Ukraine, la Chine a annoncé la levée des restrictions sur ses importations de blé russe. L'accord connu depuis début février 2022 permet désormais des importations depuis toutes les régions russes contre 7 seulement précédemment. Ce 16 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois demandé l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays lors d'une visioconférence avec les élus du Congrès des États-Unis. J'ai une nécessité, la nécessité de protéger notre ciel. J'ai besoin de votre décision, de votre aide. Est-ce trop demandé de créer une zone d'exclusion aérienne pour sauver des gens? Est-ce trop demandé une zone d'exclusion aérienne humanitaire? A-t-il lancé. Et d'insister, souvenez-vous de Pearl Harbor, ce terrible matin du 7 décembre 1941, quand votre ciel était assombri par les avions qui vous attaquaient. Souvenez-vous du 11 septembre, ce terrible jour de 2001, cette terreur, l'Europe ne l'a pas vécue depuis 80 ans. En jugeant par les réactions suscitées par les propos de M. Zelensky et l'élan de sympathie à l'égard de l'Ukraine qui fait face à une invasion russe depuis le 24 février, certains pourraient réclamer la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne, mais sans avoir la moindre idée des conséquences que cela pourrait avoir pour la suite, écrit OPEX 360. Avant de continuer, comme suit. En effet, vouloir interdire l'espace aérien ukrainien aux aéronefs russes suppose le déploiement d'avions de combat, voire de systèmes de défense aérienne. En clair, cela reviendrait pour les pays qui prendraient part à une telle initiative de mener des actes de guerre contre la Russie. Ce serait mettre le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux.